Bonsoir. Donc je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis heureux d'animer ce soir cette rencontre avec Jean-Paul Dubois. Et vous me disiez d'ailleurs que vous avez travaillé un temps à Sud-Ouest dans votre jeunesse.
Quelques mois pour collecter, bonjour à tous, pour collecter des résultats sportifs. Ça m'a servi très peu de temps.
Forme d'écriture très concise, très...
Ah oui, d'autant que là, ça se résumait à des conversations téléphoniques.
Ouais. Vous avez commencé dans le journalisme, vous étiez grand reporter au Nouvel Obs. Vous avez publié une quinzaine de romans, une vingtaine. Donc quelques-uns ont été adaptés au cinéma, plusieurs prix littéraires vous ont été décernés, notamment le prix Femina en 2004 pour Une vie française. Et vous vivez près de Toulouse. Je lisais avant de venir un papier de Jean-Claude Raspinjaz dans La Croix qui parlait à propos de votre façon d'écrire d'une lassitude comique et une résignation mélancolique face à la vie. Et je trouve en effet que ce mélange de tristesse et d'humour est très présent dans ce nouveau livre qui s'appelle La Succession. Une tristesse assez implacable, on va y revenir. Vous n'aviez pas publié, je crois, depuis 5 ans. Le héros s'appelle toujours Paul. Paul Katrakilis, il est docteur en médecine et à 28 ans, il décide d'aller vivre à Miami pour se détacher d'une histoire familiale. Il a grandi à Toulouse. Un peu compliqué, une famille marquée par plusieurs suicides. À Miami, il fait de la pelote basque. Il est heureux, il vit 4 années de grand bonheur. Et puis finalement, il est rattrapé par son histoire familiale quand son père décède. Il faut rentrer à Toulouse, prendre la succession de son père, qui était médecin lui aussi. Et il finit, alors on ne va pas trop dévoiler le... On va s'arrêter à une certaine étape du récit, mais il finit par marcher dans les pas de son père, on va dire. On a l'impression, en fait, en lisant le livre, que c'est difficile de s'émanciper de son histoire familiale. En tout cas, Paul a beaucoup de mal. Elle le retrouve. Vous pensez que l'histoire familiale nous poursuit et qu'elle nous enferme ?
Je pense même qu'elle nous précède très souvent, parce que... Une histoire familiale, c'est un fardeau de plusieurs générations. C'est-à-dire que les difficultés que nos prédécesseurs ont eues à exister nous sont transmises comme une part génétique. On ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas échapper à la tristesse d'un père, à la douleur d'une mère, à tout ce qu'on a vu quand on était... Quand on était enfant, c'est quelque chose qui nous suit en permanence et qui va déterminer la liberté d'action qu'on va avoir dans une vie. Une liberté d'action qui va être contingentée par la morale, par l'éducation, par la peur, par la crainte, par tout ce qu'on a vécu ou toutes les pertes aussi qu'on a subies dans l'enfance. Toutes ces choses-là vont fabriquer le type qu'on va devenir plus tard. Alors ça marche dans les deux sens, ça marche aussi dans le bonheur, mais ça marche aussi dans l'accablement et le fardeau. Cette histoire-là raconte un fardeau qui est ni pire, ni qui peut être plus, cinématographique qu'un autre, qui est plutôt plus caricatural qu'un autre, mais qui est un fardeau, une difficulté de vivre avec le poids d'une famille qui, dès le départ, vous donne une sorte de handicap. Un handicap dans l'aptitude, la capacité à accéder au bonheur et à la joie. Donc ces choses-là qui sont normalement constitutives de l'être humain, de tendre vers ça, sont freinés par une éducation, par des visions, par des sensations. C'est assez proche de la génétique, sans évidemment n'avoir ni aucun rapport avec. Mais c'est aussi implacable, je crois, que cet ADN comporte en nous. Cette double hélice, elle est à la fois physiologique, elle est aussi mentale, parce que on gardera toujours, enfin je parle évidemment du livre, on gardera toujours la marque et l'empreinte de cette vie initiale.
Et le paradoxe, c'est que Paul à Miami, il est heureux. Et finalement, en revenant à Toulouse, il revient vers le malheur. Mais presque consciemment.
Je ne sais pas comment... Enfin, moi, parler d'un livre, c'est compliqué. J'essaie de parler d'un livre à partir de la réalité, de ce qu'on sait des sciences humaines, de ce qu'on sait de comportements qu'on peut avoir. Quand vous êtes accablé par une histoire familiale comme ça, vous êtes accablé par un poids, ce qui n'exclut pas des échappées vers le bonheur, vers des tentatives, vers des choses comme ça. Mais il y a un moment donné où une perte familiale, notamment là dans le cas de l'histoire, une perte familiale ramène vers les origines. Et dès l'instant où vous revenez vers les origines, vous revenez vers ce mal initial, vers la difficulté d'être et d'avoir vu autour de vous une infinité de gens malheureux. Donc cette succession de visions est plus prégnante à mesure que vous vous en rapprochez. L'éloignement guérit toujours. On peut tous faire l'expérience. Vous avez des emmerdements, vous prenez un avion, vous décollez, au bout de 2 heures, il y a déjà de la distance. Au bout de 4 heures, vous n'êtes pas le même individu, et si vous arrivez à 6-7 heures de décalage, vous avez toujours votre même... Mais, la distance, c'est un baume. Et c'est une distance qui existe dans le temps, qui existe dans l'espace, qui existe physiquement. Et donc l'éloignement, puisque le narrateur, lui, s'en va loin, pratiquer un sport qui n'a rien à voir avec le métier initial que la famille lui inculque par destination. Ça guérit effectivement temporairement ce mal. C'est comme un analgésique. Ça va calmer un moment le mal de tête, mais si le mal de tête est prégnant et majeur, la douleur revient à mesure que l'éloignement diminue. C'est assez commun ce que je dis, mais c'est physique, quoi. C'est physique et géographique, je crois.
Et l'une des choses très belles dans le livre aussi, c'est que en revenant à Toulouse, il redécouvre son père d'une certaine manière, qu'il connaissait peu. Vous décrivez une relation père-fils marquée par le détachement et la méconnaissance. Est-ce que vous pensez que c'est souvent comme ça ?
Moi, je crois, pour mon expérience et pour ce que je vois autour de moi, je pense que on connaît la surface, la pellicule humaine qu'on approche tous les jours. On voit un premier plan. Et puis, il y a cette phrase de Le Vigan, « Je vois les choses derrière les choses, pour moi un nageur est déjà noyé ». J'adore ce mot, et je crois que c'est ce qu'on voit. Il y a les gens qui voient le nageur, et puis il y a les gens qui voient plus tard le noyé qui était derrière le nageur, ou le type qui était derrière la personne avec laquelle on mangeait tous les jours, auprès de laquelle on a grandi, et on découvre que ce gars-là, ou cette femme-là, avait une autre vie à laquelle on n'avait pas accès, parce que par nature, un fils ne connaît pas son père. Il peut approcher son père, il peut avoir je dis peut-être une bêtise, mais c'est un sentiment, quoi. C'est-à-dire que vous découvrez l'essentiel de votre père après sa disparition, ce qui est quand même assez triste. Et qui est, c'est aussi lié à la nature humaine, c'est lié à la pudeur, c'est lié aussi à l'éducation. Tout n'est pas... Enfin, il n'y a pas de règle, quoi. On ne peut parler que de sa propre histoire et de l'approche qu'on a de celle des autres ou des gens qu'on connaît, mais la difficulté de connaître les gens les plus proches me paraît beaucoup plus difficile, beaucoup plus importante qu'à connaître des gens qu'on fréquente au quotidien et qui ne sont pas aussi proches de vous. Le fait de d'être passé au travers de cet homme ne donne pas accès à lui. Je trouve on le découvre après, on découvre qu'on s'est trompé, on découvre tout un tas de choses, comme dans le livre, on découvre que ce type était un médecin qui faisait des consultations en short, ou qui était un type assez déplaisant ou absent avec sa famille. Et on découvre que l'envers de cet homme était un homme qui avait aussi un énorme courage, en aidant des gens à mourir qui étaient en phase terminale de leur vie, et qui les aidait à mourir, et qui simplement, après avoir fait ce travail-là, rentrait chez lui et devait assumer une famille qui ne l'intéressait pas. C'est aussi ça, de accepter le double visage, la double part d'un homme que finalement on ne découvre qu'après. On le découvre à travers, en ouvrant un tiroir, parce que c'est toujours comme ça, on ne découvre jamais les choses de façon simple et évidente, à la suite d'une explication, on découvre un truc en ouvrant un tiroir, et puis un détail qui va vous choquer, et puis vous allez voir un peu dans ce qu'il y a derrière ce détail. Et puis il y a les choses que vous ne découvrirez jamais, que vous savez être là, mais que vous ne voulez pas approfondir. C'est aussi. C'est un exercice de pudeur permanente, le rôle, le lien qu'on entretient avec ses parents. Je parle encore du livre. C'est une approche qui doit être toujours méticuleuse et assez difficile.
Pudeur réciproque, parce que finalement, c'est une famille au plan affectif assez atomisée. S'ils n'expriment pas leur affection, l'affection qu'ils ressentent les uns pour les autres, on a l'impression qu'ils vivent parallèlement, les membres de la famille Catrakilis, pardon.
C'est difficile d'exprimer une affection comme ça dans une famille de cette nature. Ce sont des gens qui sont. Toute la famille est traversée par le suicide. C'est une famille suicidaire, comme il y en a énormément dans la société, même si c'est un phénomène qui n'est pas majeur. Mais moi, je reviens toujours à l'histoire d'Hemingway, qui est une famille, quand on s'appelle Hemingway, le grand-père d'Hemingway s'est tiré une balle dans la tête. Le père d'Hemingway s'est tiré une balle dans la tête. Hemingway s'est tiré un coup de fusil, tous avec la même marque de fusil. Le frère d'Hemingway s'est également suicidé avec une arme à feu. La sœur d'Hemingway s'est également suicidée. Et la petite fille d'Hemingway s'est suicidée. Or, quand vous appelez Hemingway et que vous arrivez en fin de lignée et que vous êtes le suivant à porter ce nom, vous n'abordez pas le restant de votre vie ou la fin de votre vie de la même façon qu'un type qui est issu d'une famille de rugbyman en pleine santé et qui a toujours vécu dans la joie, le bonheur et le partage. C'est très compliqué d'assumer une famille comme ça, d'affi. Assumer une famille compliquée est une chose, y compris dans l'approche de la mort. En faisant ce livre, je me demandais toujours comment je serais habillé le jour où je vais mourir. C'est complètement idiot, mais c'est une. Voilà, pouvez passer une vie sans jamais vous poser cette question. Mais à partir du moment où vous posez cette question, elle ne vous lâche plus. C'est-à-dire que c'est réellement une. C'est idiot, j'en conviens, ça n'a aucun sens. Mais si vous êtes le septième Hemingway, vous y pensez tout le temps et vous vous demandez si vous allez utiliser la même marque de fusil. C'est là où l'histoire familiale, on revient à la conversation initiale, est d'un poids et d'une lourdeur accablante. Dans un certain type de famille, je ne parle jamais de façon générale, mais dans un certain type de famille, l'histoire est déterminante, quoi. C'est quelque chose qui va.
Un scénario.
Oui, vous n'abordez plus, vous ne regardez plus la suite des jours avec la même sérénité. Il y a toujours cette inquiétude permanente de savoir d'abord si vous allez être le septième et comment ça va se passer. Et chez les Catrakilis, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vivent, mais qui ont une profonde inaptitude à aller jusqu'au bout d'une existence. Et c'est tout à fait. Moi, ça ne me dérange pas, quoi. C'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Et je trouve beau quand de ces types qui est condamné comme ça à disparaître aident aussi.
Se bat, en fait.
Chacun se bat.
Il tient bon.
Le père se bat en aidant des gens à mourir, ce qui est quand même assez paradoxal. Mais pour un médecin, il faut énormément, il faut, je pense, beaucoup plus de courage pour aider son patient en fin de vie à mourir que pour guérir un type qui a une bronchite. Donc, parce qu'il faut faire le geste, il faut aller chez lui, il faut l'aider, il faut faire ça au risque et péril de carrière professionnelle, au risque de devoir rentrer le soir avec, et continuer à vivre une vie normale le lendemain, après avoir fait un geste qui n'est pas naturel chez l'être humain, quoi. C'est pas naturel de pousser une seringue avec les trois produits à l'intérieur pour aider quelqu'un à mourir. C'est quelque chose, quand on va dans le détail, quand on discute avec des gens qui ont fait ça, quand on c'est à la fois merveilleux, mais c'est prodigieusement problématique quand le soir, quand arrive le soir et qu'on rentre à la maison, quoi. C'est ça. Et donc un homme qui se bat pour faire ça, pour aider, pour donner de la dignité à des gens qui n'y ont plus accès, pour c'est exactement comme son fils qui va essayer d'attraper, c'est pour ça que oui. Le livre, on a pris cette image d'essayer d'attraper un peu de vie au bout de la schistera, essayer de c'est un sport assez symbolique où on va chercher quelque chose d'inaccessible. La schistera, c'est ça, c'était sauter pour essayer d'attraper quelque chose. C'est un geste qui est d'une beauté. Et tous ces gens-là, mais on fait la même chose. Sauf qu'on ne le fait pas avec des seringues ou avec des schistéras, mais on se lève tous les matins en essayant d'attraper un petit moment où on va se dire que les choses vont aller mieux.
Vous parliez du fait d'aider des gens à mourir. Dans ce livre, il y a aussi question des maladies neurodégénératives. Vous parlez de la pelote basque aussi, les maladies neurodégénératives, vous en parlez très très bien. Je me demandais, en lisant, comment vous agrégez tout ça, d'où ça vient, c'est des choses que vous avez vécues, comment tout ça se combine ?
Il y a deux choses, enfin moi je crois à deux choses. Pour faire un livre, il suffit d'avoir essayé d'avoir avant une vie, pour faire des livres. Moi, je ne saurais jamais faire un livre ex abrupto comme ça. Tous les livres, ils se sont fabriqués. Ils ont une manière d'exister, de se fabriquer, qui est d'une logique accablante. Tout ce que je fais, tout ce qui est dans les livres, ce sont des choses que j'ai absorbées, qu'on m'a données, que mon père m'a données, que les gens qui ont suivi m'ont donné, que mon travail m'a donné, que tous les gens que j'ai rencontrés m'ont donné. Jack Kevorkian, c'était un type...
Kevorkian, un médecin américain qui justement aidait les gens à mourir.
Un jour j'ai lu ça.
Vous l'avez rencontré ?
Ah bah oui, je l'ai rencontré, j'ai passé des jours et des jours avec lui. Et ce sont des gens qui ne vous quittent pas après ça. Moi je l'ai rencontré il y a peut-être 25 ans et j'ai su que ce type-là m'accompagnerait jusqu'à la fin de ma vie. Parce que vous atteignez, vous côtoyez des personnes, là, enfin ce type-là qui est. On ne va pas faire un débat sur la fin de vie, ce n'est pas le problème. Mais ce sont des gens, quand je l'ai quitté, la seule chose que j'ai pensé, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, je me demande comment je vais être habillé le jour où je vais mourir. Lui, je me suis dit, le jour où je vais être dans la phase, malheureusement, de vie où se trouvent ses patients qui l'aident à ce moment-là, ce que je voudrais, c'est qu'il habite dans l'immeuble. Voilà. Et... je crois que ça règle tous les problèmes ensuite éthiques. On ne discute pas de ça. Un type comme ça, c'est bien de savoir qu'il est là. Moi, j'ai parlé de la mort avec lui pendant 3-4 jours. Quand il m'a accueilli en bas de chez lui, il m'a dit « Je ne veux pas vous recevoir à la maison parce que je vis dans une maison tellement minable que j'aurais honte de vous la montrer. » Déjà, Et alors, on était allé à la bibliothèque. C'est une petite ville à côté de Détroit. Et on a parlé pendant 3 jours. Il me parlait, bon, c'était avant qu'il commence ses mises à mort, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce n'est pas des mises à mort, ses aides. La première personne qui l'a aidé, il l'a aidé dans un camping-car. Parce que les hôpitaux l'ont refusé, parce que les cliniques l'ont refusé, parce que les hôtels l'ont refusé.
Il avait des problèmes
suite avec la justice. Il a été condamné, il a fait de la prison. Après, il a mis une machine au point pour que les patients puissent se donner la mort eux-mêmes sans qu'il ait lui-même à intervenir pour échapper à la justice, mais tout en donnant le maximum de confort à ces gens qui ne pouvaient plus vivre. Enfin, c'est des histoires. Donc, toutes ces histoires-là, elles vous traversent. Elles vous traversent comme ça, sans aucune... Vous savez que c'est en vous. L'histoire de l'ascenseur du livre précédent, c'était exactement la même chose. Ce sont des événements. Enfin, tous les livres que j'ai faits, qui n'ont pas un gros intérêt, sauf pour moi, parce que Après, vous déconstruisez la fabrication du livre et vous dites d'où ça vient. Et vous retrouvez tout. Moi, j'ai retrouvé mon père, j'ai l'Ariel 1000 qui est dans le livre, c'est la première moto que j'ai construite, que j'ai conduite sans permis. Je devais avoir 16 ans sur les allées François Verdier. C'est une 1000 centimètres cubes, vous imaginez un môme de 16 ans. Enfin bon, c'est des trucs que vous oubliez jamais. Et toutes ces choses-là qui vous que vous transportez dans une mémoire morte, c'est une mémoire à laquelle vous n'avez plus accès, officiellement. Et puis, vous arrêtez de vivre normalement, vous dites je vais faire un livre, et tout ça va revenir. C'est mécanique, ça revient en douceur, toutes les odeurs, les vies, les visages, les voix, tout ça revient, et ça va donner quelque chose une chose à laquelle vous allez essayer de donner une cohérence. La seule difficulté d'un livre, c'est pas de l'écrire, c'est de donner une cohérence à toutes ces mémoires mortes, à tous ces gens qui ont disparu, mais qui vous ont nourri avec une richesse phénoménale, quoi. Parce que ce sont des gens qui sont à la limite d'une vie, ou à la limite de sentiments, ou à la limite de situations. Et ça vous donne à réfléchir, ça vous nourrit pendant toute une vie des personnages comme ça. Je pense à Kevorkian, mais il y en a une infinité. Il y a un type auquel je pense, que j'ai croisé comme ça, qui allait mourir du sida, et il m'invite aujourd'hui. C'était un homosexuel à San Francisco, et ce type, on a passé, bon, je faisais un truc sur les gens en fin de vie aussi qui avaient le sida, et puis ce type qui allait mourir dans les semaines qui venaient, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux d'aller à la pêche. Et sur sa voiture, j'oublierai jamais, il y avait une mauvaise journée de pêche, vaut mieux qu'une bonne journée de travail. Et ce gars-là, bon voilà, ce type-là, il m'a laissé ça. Alors, est-ce que ça sera un jour dans un livre? Non, vous voyez, ça remonte là parce que vous me posez cette question. Mais tout ça, c'est dans mon stock de mémoire morte. Et cette mémoire morte, c'est... Je pense que c'est ce qu'on a de plus riche. Parce que c'est une mémoire qui n'a aucun intérêt pour la vie quotidienne, ça ne sert pas dans votre boulot, on ne vous la demande jamais, c'est rien, c'est des trucs... c'est pas performant. Mais c'est ce qui vous fait, c'est ce qui fait que vous êtes un type qui tient debout et qui, tous les matins, va continuer à faire son boulot, son métier d'homme, quoi.
Ça veut dire qu'avant d'écrire, il faut vivre beaucoup.
Ah oui, oui. Ça, je pense que c'est le... ça se un livre, ça se fabrique à travers toutes les difficultés qu'on a eu à vivre, ou tous les bonheurs qu'on a eu à vivre. Et vous pouvez raconter chacun de vos livres à travers les moments d'une vie, parce qu'ils correspondent à des moments du... qui correspondent à des moments d'une vie, à ce que... vous pourriez les démonter comme des Lego, presque. Voyez, vous les fabriquez comme des Lego sans le savoir, et ensuite vous les démontez et vous reconnaissez chaque morceau, chaque élément que la vie vous a apporté. C'est jamais de la fiction, quoi. La fiction, c'est quelque chose qui est... C'est du désordre qu'on n'a pas su contrôler, du désordre mémoriel qu'on n'a pas su contrôler. Et ce qui est fort pour soi, je ne dis pas pour un livre, mais pour soi quand on fait un livre, c'est de donner une cohérence à tout ce bordel, à toute cette panique, à toute cette peur que vous avez engrangée, ou tout ce bonheur. Enfin, je parle souvent de panique et de peur parce que ce sont des éléments constitutifs d'une vie. Et un livre, c'est arriver à ordonner tout ce désordre d'une vie. Disparate.
Et ça vous angoisse, par exemple, de rester 5 ans sans publier?
Ah, pas du tout. Non. Parce que pendant 5 ans, je me régale de vivre. J'essaie de vivre au maximum. J'essaie d'être heureux. J'essaie de... Non, mais c'est... Moi, j'ai jamais été angoissé de ne pas écrire. Et je n'ai jamais été angoissé d'écrire. Je me fous au travail le 1er mars, et à la fin du mois, c'est fini.
Oui, voilà, vous avez une méthode très spécifique. Ça, disons que vous écrivez avec beaucoup de discipline pendant un mois, je crois.
Parce que je me suis rendu compte que mon cerveau, c'est pas une pause, je me suis rendu compte que mon cerveau était fabriqué comme ça, avait besoin de fonctionner comme ça. Si je le laisse tranquille, Je fais rien. Je vais avec mes chiens, je vais me baigner avec mes chiens, je vais faire tout un tas de choses qui vont ensuite me permettre de raconter le bonheur que j'ai avec mes chiens. J'allais dire qu'ils ne servent à rien, mais si, parce que ce moment-là, Watson, c'est mon chien.
Watson, c'est le chien
C'est
qui devient l'ami du
Ouais,
personnage
mais qui est mon chien,
de Paul.
avec lequel je vis
Un chien
depuis des années.
que vous récupérez, enfin que le narrateur récupère alors qu'il est en train de se noyer.
Voilà, moi je l'ai récupéré au bord d'une rivière, c'est pas. Et tout ce que je vais faire avec lui dans ma vie, je vais le mettre dans le livre, parce que. Donc le fait de discipliner un cerveau et de le forcer comme vous forceriez un coffre-fort, c'est-à-dire moi je me donne 31 jours, du 1er au 31 mars pour un livre de 240 pages, 8 pages par jour, 30 jours, 3 fois 8, 24, 240, et garder un jour de plus pour. Non mais ça peut paraître drôle comme ça, mais et si vous faites un livre, Une vie française, ça faisait 500 pages, ça fait 2 mois et 4 jours, parce que. Il y a une contrainte. Je me dis, je ne me lèverai pas tant que j'ai pas fait 8 pages de livre. Donc, le matin à 10 h, je m'y mets et je me couche à 4 h. Et je fais ça. Je ne me lève pas tant que j'ai pas fait mes 8 pages. Et des fois, j'en fais 11. Et là, je me dis, c'est formidable. Et le lendemain, je reprends ce que j'ai fait, je relis et je recommence. Et c'est comme ça tous les jours. Et c'est une discipline. C'est exactement comme le sport. Le sport est une chose. Amusante comme ça, quand vous le voyez, mais c'est une discipline intellectuelle phénoménale, c'est contraignant. C'est-à-dire que pour faire un geste parfait, que ce soit celui du pelotari ou du nageur qui va trouver le coefficient de pénétration dans l'eau le plus parfait, ça,
Oui, c'est
c'est jouissif à voir,
la
mais c'est quelque
perfection.
chose qui va vous demander une contrainte tous les jours de nager 15 ou 20 km en bassin. Tous les jours pendant 15 ans. C'est absurde. Mais c'est ça le coefficient. C'est la finesse avec laquelle après vous allez rentrer dans l'eau. Il n'y a que vous qui le savez. Le livre, c'est pareil. C'est mon coefficient. Comment je vais travailler mon coefficient de pénétration dans l'eau? Comment je vais être le plus performant? Je me suis rendu compte que c'était en me mettant une contrainte diabolique. En la suivant, en ne lâchant pas, même quand t'as mal, même. Moi, j'ai fini des livres avec des infiltrations dans le dos parce que je ne pouvais plus rester assis. C'est ridicule. Mais je l'ai fait parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut que je fonctionne comme ça. Je commence en me disant, je vais mourir avant d'avoir fini le livre. À la page 100, je me dis, jusqu'à la page 100, je monte une colline, une montagne. À partir de la page 100, je sais que c'est fini, qu'on va descendre et que j'arriverai au bout du livre. Donc je vis avec l'inquiétude, la trouille, la peur de mourir, enfin tout des trucs de gamin, de fou, quoi. Mais c'est des conditions. Et là, je me suis aperçu que le cerveau marchait beaucoup plus vite. Que sous contrainte, le cerveau, justement la mémoire morte, était réactivée avec vigueur. Que des performances que vous ne seriez pas capable de faire. Sans cette contrainte vont arriver. Quand je dis performance, c'est pas aller vite, c'est être justement performant dans l'exactitude du mot, par exemple, que vous allez essayer de la phrase la plus simple et la plus loyale que vous allez proposer à la personne qui va la lire, la fabrication de la refabrication du sentiment que vous avez expérimenté. Vous allez usiner ça. C'est un boulot. Enfin, c'est un boulot. Voilà, moi je dis c'est un boulot. C'est pas péjoratif. C'est difficile à faire comprendre dans le monde de la littérature où tout n'est qu'inspiration, on vous raconte des choses comme ça. Ça marche, pour moi, ça ne marche pas comme ça. C'est un travail difficile. D'abord de stockage. Il faut stocker tout ça. Parce que ça ne naît pas de rien. Et quand vous l'avez stocké, pendant ce mois, il va falloir donner quelque chose que vous ne serez jamais capable de redonner dans les 11 mois suivants, parce que ce n'est pas possible. Parce que le cerveau. Alors j'ai discuté ensuite avec des neurologues, j'ai discuté avec des gens qui travaillent dans les neurosciences, j'ai discuté avec mon ami d'enfance, enfin mes amis d'enfance qui sont pour la plupart tous des gens qui gravitent dans le domaine de la médecine, et ils m'expliquent physiologiquement comment. Effectivement, j'arrive en fouettant mon cerveau, enfin le cerveau en général, on arrive à lui donner une petite surcapacité par un temps. Et alors, ce qui est étrange, c'est que quand j'ai fini le livre, je dis souvent à ma femme, je vais, oh, dans les 3-4 jours qui suivent, je suis sûr que si j'en commence un autre, dans 20 jours, il est fini. Et c'est la même adrénaline qui, au bout du 40e kilomètre d'un marathon, va vous dire « je ne peux pas encore continuer à en faire deux de plus ». C'est aussi mécanique que ça. Ça n'a rien de mystérieux. Mais je crois qu'un jour, on va arriver
là, c'est physiologique, c'est...
à comprendre comment fonctionne un cerveau pour fabriquer une histoire, pour fabriquer... C'est quelque chose qui va être compréhensible. Je ne veux pas dire que pour autant ça va devenir banal ou autre, parce que c'est toujours magique de fabriquer une histoire, de fabriquer un film, de fabriquer une musique. Mais, par exemple, on a découvert, moi, ce qui me plaît aussi, vous voyez, ce qu'on engrange, que les neurosciences ont étudié quelles étaient les professions les plus actives, qui mettaient le plus à contribution lorsqu'elles étaient en activité, le cerveau. Et d'après vous, c'est quoi comme boulot ?
Ah, aucune idée. Si, voilà. Je pense que c'est tout à fait inattendu.
Ah, totalement. Ouais. C'est un pianiste.
Ah oui.
C'est un pianiste, parce que dans le y a tout. Il y a à la fois la mécanique des mains, l'équilibre, l'imagination, le cerveau, le son. On voit, grâce à des images de résolution magnétique, on voit que les zones d'activité du cerveau, qui sont rougies sur l'image, sont parmi les gens qui ont été testés, sont les musiciens qui ont cette espèce de surgénérateur qui leur permet d'avoir un cerveau. Et moi, je suis ébloui par ça, parce que je sais que tout ce qu'on produit n'est que le produit fini de la machine fantastique qu'on a et qu'on ne comprend pas encore, qu'on a sous la boîte crânienne, quoi. Et savoir comment ça fonctionne, c'est aussi fascinant pour moi que de savoir comment fonctionne une molécule en physique ou les accélérations de molécules qui ont eu le prix Nobel ou des choses comme ça. C'est phénoménal de savoir comment on va fabriquer quelque chose qui est ensuite qui va s'appeler une musique, un livre ou autre, et de le comprendre.
Vous vivez beaucoup, vous prenez le temps de vivre. Est-ce que vous lisez beaucoup aussi ? Est-ce qu'il y a des influences comme ça qui vous nourrissent ou finalement pas tant que ça ? Et si oui, lesquelles ?
J'ai lu beaucoup, je lis moins, et ce qui me... Ce qui me nourrit le plus, je vais dire, c'est le cinéma. Mais le cinéma, bon, il ne faut pas dire le cinéma en général, ça ne veut rien dire. Il y a des films comme ça qui ont pour moi un pouvoir que n'auront jamais un livre ou autre chose. Parce que dans un film de grande facture, quoi, je ne parle pas du cinéma quotidien... Un film comme Take Shelter, par exemple, un film comme on va pas faire une énumération comme ça, mais Bullhead, c'est des films qui vous bouleversent, parce que vous avez dans un film l'écriture, vous avez l'image, vous avez l'écriture qui peut être aussi belle qu'un beau dialogue dit, c'est aussi beau qu'un beau dialogue écrit. Une voix off qui dit un texte magnifique, c'est aussi beau qu'un texte que vous lisez. Il y a une musique qui, si elle n'est pas trop envahissante, intelligente, subtile et en adéquation avec le texte, vous fabrique un univers qui va vous émouvoir et vous nourrir d'une manière qui est, pour moi, totale. Quoi. C'est l'arme totale, le cinéma. Quand c'est fait par des gens qui ont le savoir-faire, l'intelligence, la sensibilité, qui sont à la fois des écrivains, qui sont à la fois des gens qui connaissent la musique. C'est ça où c'est difficile, le cinéma. On a là aussi une expérience souvent très tronquée du cinéma. C'est qu'il est difficile qu'un réalisateur arrive à regrouper tous ces savoir-faire. Et quand vous tombez sur des types comme ça, vous êtes abasourdi, quoi. Alors en équivalent, moi en livre, c'est Updike, c'est John Updike.
John Updike.
Il a fait 37 livres, je les ai tous achetés, y compris son livre sur le golf, où il raconte à quel point il est heureux de tenir, vous savez, dans les compétitions de golf, moi c'est un sport qui me dépasse, quoi. Mais bon, des fois je regarde ça, et ce type qui est un des plus grands auteurs morts et vivants, puisque maintenant il est mort, mais qui a été, durant ma vie, sans doute le type qui m'a le plus subjugué, qui a sans doute une culture monumentale et une sensibilité, une douceur, une humanité, intelligence hors du commun. Ce type-là, son grand bonheur, moi c'est de jouer avec mes chiens, lui c'était de tenir la ficelle derrière laquelle les spectateurs de golf regardent un type pousser, faire un putt sur un green. Et lui il tenait ça, il a eu tous les prix de la terre et tout, et son bonheur c'était de tenir la ficelle et de regarder avec admiration un gars mettre une balle dans un trou. Et là vous vous dites, bon, et après vous réfléchissez, vous dites, mais dans le fond c'est quoi une vie? Moi, j'ai essayé de comprendre ça à travers lui, à travers l'idée que je m'en faisais. C'est s'atteler en 18 trous et c'est mettre 80% du temps la balle à côté, quoi. Et d'essayer de c'est ça, quoi. C'est un 18 trous avec l'espoir toujours de réussir le coup parfait, le birdie, le buggy, de réussir l'eagle, voilà. Mm. C'est ça une vie. Et Updike avait ce talent-là, quoi, ce talent de dans tous ses livres. Je crois que ce type n'a jamais fait un livre médiocre. On fait tous des livres médiocres. C'est inscrit dans la nature même du type qui écrit des livres, d'être médiocre à un moment donné, ou même souvent, parce que ça ne peut pas être autrement. Parce qu'on est fabriqué avec ça. La médiocrité fait aussi partie constitutive de notre vie, de notre cerveau, et donc on va la retranscrire. Parce que et lui arrivait justement à passer au travers, à passer entre les gouttes. Il y a des fois où il était moins bien, mais il était toujours formidable.
Vous parliez du cinéma. Est-ce que les séries américaines aussi, ça peut vous inspirer ou pas vraiment?
Il y a des. C'est ce qui m'inspire, ce que je trouve fabuleux, c'est la productivité. Voilà, bon, ils sont 14 ou 15 à les faire, mais il y a des moments de grâce. Une série, Seinfeld, moi j'ai commencé la série américaine il y a, je sais pas, 25 ou 30 ans avec les Seinfeld. Je regardais ça, c'était extrêmement drôle, c'était que du truc drôle. Mais après, les séries sont devenues graves, lourdes, infiniment tristes, et vous avez des moments dans des séries. Même maintenant, on arrive à la voir dans les séries françaises, vous avez des moments de grâce, mais le vice de la série, la série porte en elle-même sa propre mort, parce que une saison, c'est déjà phénoménal. C'est 10, 12 épisodes de 50 minutes, donc c'est très long, mais vous pouvez sur une saison maintenir cette grâce. Mais ensuite, le problème, c'est qu'on va vous demander de refabriquer cette grâce pendant 5 ans. Et ça, c'est pas possible. 5 ans ou 10 ans, il y en a qui ont tenu 10 ans. Et vous pouvez pas, parce qu'il y a quelque chose qui... Vous pouvez... C'est pas normal d'être... Enfin, c'est pas normal. C'est pas possible d'être subtil pendant 10 ans. Et l'écriture non plus, et vous avez des personnages qui vont se déliter, vous avez avoir des redites, donc c'est une magnifique machine à réfléchir à la façon dont se fabrique l'intelligence sur une durée brève, sur la capacité aussi de voir comment 10 personnes vont s'effacer derrière une écriture. Ça, c'est assez prodigieux.
Ce qui est très américain. Mais qui
oui, n'est mais pas c'est, très français. Je m'en fous. Moi, c'est américain, mais c'est malin. Oui, ouais. Enfin, c'est malin. C'est pas malin. C'est quand vous n'arrivez pas à voir. Parce que des fois, quand c'est mal fait, vous voyez la reprise, la couture. Quoi. Mm-hmm. C'est la couture mal faite. Vous allez voir que il y a plusieurs mains qui ont travaillé à ça. Mais quand vous entendez une petite symphonie comme ça qui dure 50 minutes et vous voyez qu'une seule écriture. Qu'une seule voix qui parle, c'est formidable. Et vous dites que les types se sont oubliés derrière quelque chose. Et là, il y a l'écriture. Moi, mon rêve, c'est l'écriture fantôme. C'est-à-dire le type qui écrit et qui n'apparaît jamais. Ça, c'est un truc. Écrire sous le nom d'un autre. Je pense que c'est le rêve de chaque type qui écrit. Disparaître derrière son écriture. Ne plus n'être qu'une histoire. Voilà. Et ne pas avoir ni à l'expliquer, ni à la justifier, ni à l'incarner. C'est ce qu'arrive à faire, vous me parlez, enfin, ce que certains écrivains de séries arrivent à faire, c'est-à-dire à disparaître derrière leur histoire. Et ce type-là, juste un petit nom comme ça qui est dans les écrivains additionnels, c'est quelque chose de. C'est un exercice de modestie, c'est un exercice d'admiration aussi. Moi, je n'ai pas de mépris du tout pour ça. Et je ne suis pas un fanatique, mais j'admire le travail quand il est bien fait, comme ça. Mais que ce soit dans une série ou dans n'importe quoi, je trouve que l'élégance, elle est partout. Vous pouvez la voir partout dans l'élégance. Il faut savoir juste la regarder. Prendre le temps de le perdre. Moi, j'ai perdu des heures et des... Qu'est-ce que je dis ? Des mois, presque, je pense, des années à regarder des conneries à la télé. Et puis, vous tombez sur quelque chose, parce que je peux passer, je ne sais pas, de 2, 3, 4 jours à regarder des choses absolument stupides. Enfin, pas stupides, des choses que je cherche. Et puis, vous allez tomber sur... Et puis, j'ai perdu du temps. Mais l'heure que... Le problème, enfin bon, je ne sais pas, on est loin du livre, mais c'est pas loin non plus. C'est le temps. Le problème, c'est notre rapport au temps. On fait des choses comme si on avait une vie éternelle. Or, si vous réfléchissez au temps qui vous est imparti dans une vie et à la manière dont vous l'utilisez, tout d'un coup, vous êtes pris de terreur. Enfin, moi, je suis pris de terreur. Vous additionnez le sommeil, vous additionnez le travail, les temps de transport, les emmerdements quotidiens à régler. Et qu'est-ce qui vous reste pour être heureux dans une journée ? C'est epsilon, c'est un truc. Moi, je trouve ça effrayant. Et ce temps-là, le vrai combat politique, c'est de le récupérer. C'est de dire, moi je veux savoir comment je vais être habillé quand je vais mourir, mais je veux savoir aussi le temps que je vais prendre à user les vêtements que je vais porter. Je veux savoir, je veux être propriétaire de mon temps, je veux perdre mon temps. Et en perdant ce temps, vous vous rendez compte que vous devenez immensément riche avec cette mémoire morte, avec tout ce que vous récupérez, que vous glanez dans une vie. C'est des trucs de glaneur, quoi. Et perdre du temps, moi, j'ai jamais cru que c'était quelque chose de très... qui ressemblait à quelque chose de tangible. Je pense que le temps que j'ai perdu à regarder des séries... Seinfeld, ce que je vous disais tout à l'heure, Seinfeld, il est là. Je ne sais pas ce qu'il m'a apporté. Mais sans doute une forme de joie de vivre intérieure, un truc qui ne se voit pas, quelque chose qui va vous pousser à aller à... Et puis d'autres séries très noires, et c'est là où je vous dis, c'est souvent dans un fatras que vous arrivez à trouver, mais il faut encore être propriétaire de son temps, pouvoir le perdre, pouvoir se coucher vachement tard et se lever quand vous n'avez plus sommeil. Ça, je pense qu'on devrait apprendre aux enfants à se lever quand ils n'ont pas sommeil, quand ils n'ont plus sommeil. Mmh. Ça, c'est une éducation. Vous imaginez une vie à se... Simplement, vous vous levez sans réveil, jamais, quand vous n'avez plus sommeil. Quel luxe ! C'est ça le bonheur.
Et sortir de l'horloge et de...
Mais je le rabâche parce que c'est une chose qui me paraît évidente. C'est être propriétaire de son temps. Moi, je ne trouve pas normal qu'on ne soit pas propriétaire, qu'on soit dépouillé à ce point de... La vraie politique, pour moi, la vraie politique, le mec qui va gagner un jour le cœur des gens, mais quand je dis le cœur, ce n'est pas l'âme, c'est le cœur intellectuel des gens, c'est le rapport qu'on a au temps. Qu'est-ce qui nous reste pour vivre, quoi ? Qu'est-ce qui nous reste pour fabriquer un livre ?
Et le temps de perdre le temps, est-ce que vous l'aviez quand vous étiez journaliste et reporter ?
Oui.
Oui,
c'est paradoxal parce que j'ai fait...
Vous avez de la chance.
Mais oui, parce que j'ai travaillé dans un journal qui, à l'époque, était quelque chose d'inouï, qui m'a payé pendant 20 ans, tous les mois, pour aller parcourir le monde sans contrainte, sans horaire, sans longueur de page, en me disant de raconter simplement ce que je voyais. Et quand j'ai demandé à mon patron, je me souviendrai toujours que... Mais ça, on racontait des choses un peu stupides, mais quand j'ai été embauché, mon patron m'a proposé de venir travailler à l'Observateur. Je travaillais au Matin de Paris à l'époque, et il m'a proposé un salaire. Et je lui ai demandé 30% de moins de ce qu'il m'a proposé. Et ce type à qui toute sa vie on avait demandé des augmentations, avait devant lui un type qui lui demandait 30% de moins. Et on était tous les deux à table. Et je lui ai dit, si je vous demande ça, c'est 30%, ça inclut le fait que j'habite à 700 km mon employeur, que je sois triste, que je sois mélancolique et que j'ai un droit à la dépression. Il m'a regardé, il m'a dit d'accord. Et pendant 25 ans, avec ce type, on a entretenu, on n'a jamais été copains, ça a toujours été mon patron, je lui ai dit vous. Il m'a respecté, je l'ai respecté, et on a respecté chacun notre contrat. Je lui ai toujours donné le meilleur de ce que je pouvais faire comme travail, exactement comme dans les livres, dans les mêmes conditions. Et lui, il ne m'a jamais forcé à aller travailler. Et il m'a proposé de raconter, de rencontrer Jack Kevorkian, de passer le temps que je voulais avec lui, parce qu'il savait que quand j'allais rentrer, l'histoire qu'il allait avoir dans son journal, elle allait être enrichie par le temps que j'avais perdu avec Jack Kevorkian. Et j'ai perdu du temps avec Kevorkian, j'ai perdu du temps avec une infinité de gens merveilleux qui ont permis au journal d'avoir des histoires et moi de m'enrichir en faisant
cette
mon travail.
Cette mémoire morte, elle s'est constituée là aussi.
C'était possible dans un journal qui justement faisait un journalisme qui n'était pas de tension, de pression, de performance. C'est un monde qui n'existe plus. Ça. C'est un monde qui n'a plus cours. Donc ça a été merveilleux. Et je sais que si je n'avais pas vécu avec... Si cet homme ne m'avait pas donné cette chance, parce que j'ai eu une chance inouïe, s'il ne m'avait pas donné cette chance, je pense que je n'aurais pas fait des livres. Je pense que je n'aurais pas... ressenti tout ce que j'ai ressenti et je vais m'être enrichi, mais pas, je suis pas devenu plus malin et tout, mais j'ai simplement eu la chance de voir une gamme d'humanité qu'on ne voit pas dans une vie normale parce qu'on n'a pas le temps. Et un type qui vous dit je vous paie pour perdre du temps et me raconter tout ça, imaginez, ça a l'air de rien, mais c'est miraculeux, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Paul Dubois.